Bonjour Louis, ça va?
Ça va.
Mais t'es toujours artiste,
hein? Oui.
Allez, non, ça m'étonne toujours ça.
Ah oui?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qu'est-ce que tu tournes?
Je tourne en Fantomas.
Ah bon? Je crois que tu l'avais déjà tourné ça.
On fait un troisième Fantomas.
Ah bon? C'est pas un film que tu refais parce qu'il était pas bon, non? Ah bon?
RTL.
J'ai une paix à un moment. J'ai dit, mais ils vont pas refaire ça au prix que ça coûte.
La curiosité est un vilain défaut.
Toutes les bonnes choses qu'il y avait dans les deux autres, les armes là.
Ah oui, c'est un amalgame, quoi. Et alors, toi, tu me demandes pas ce que je fais, tu t'en fous, quoi.
Là, tu joues, je sais pas quoi, d'ailleurs, m'attends-tu.
Quelle archive géniale. Merci, merci Monsieur Latouche, merci François Touchard, notre réalisateur. Et bonjour Bertrand Dical.
Bonjour.
Bienvenue.
Heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans le studio. Vous êtes journaliste, évidemment. L'exposition Louis de Funès ouvre ses portes le 15 juillet prochain à la Cinémathèque de Paris. Ça nous a donné envie de vous inviter et de raconter comme ça ce duo. Cette archive, il faut quand même la commenter. Elle sort à l'occasion de du film La Traversée de Paris. C'est drôle parce qu'il y a une histoire Fantomas entre Bourvil et de Funès.
Oui, alors il y a une histoire extraordinaire. C'est que en 1964, De Funès et Bourvil doivent tourner ensemble Le Corneau de Gérard Oury. Mmh. Tournage extrêmement ambitieux qui doit durer une douzaine de semaines, tournage itinérant, presque exclusivement décor naturel. Enfin, c'est quand même un peu. Mmh. Et Bourvil dit : moi, il n'y a aucun problème, je vous le tourne, il n'est même pas très embêtant sur l'argent, tout va bien, mais il dit, mais il y a un truc qui est clair, hein. Moi je travaille pas en août c'est vacances. et Gérard Oury est absolument catastrophé, tant pis, il prend ses vacances, et il prend d'autant plus ses vacances qu'au mois d'août on lui a aussi proposé un film qui est Fantomas de André Hunebelle, dans lequel il y a Jean Marais, et pour lequel il est sollicité pour reconstituer le fameux duo Bourvil-Jean Marais de toute une série de films de cap et d'épée. Et Bourvil dit, Hunebelle, c'est la même chose que Oury, moi je travaille pas en août. Et donc, Hunebelle se dit, qui je vais engager pour jouer le commissaire Juve? Et on ne sait pas si c'est Bourvil ou si c'est Hunebelle qui pense lui-même, parce qu'elle avait déjà travaillé avec Louis de Funès. Et c'est comme ça que Louis de Funès tourne dans Fantomas en remplaçant Bourvil. Et il finit le tournage de Fantomas dans les derniers jours d'août et il retrouve Bourvil, à qui il peut raconter ce qu'a été le tournage de Fantomas.
Bourvil n'a pas été déçu de ne pas tourner ce film de Fantomas. C'était une star, et c'était plus grande star que Louis de Funès à l'époque.
C'était une star énorme, c'était une beaucoup plus grande star que Louis de Funès. Tout simplement, dans Le Corneau, selon les chiffres qu'on connaît, Bourvil a touché trois fois plus d'argent que Louis de Funès.
Ça dit
quelle était la hiérarchie à ce moment-là.
Ouais, leur rencontre, elle se fait sur le tournage du film Poisson d'avril. On est en 1954, donc c'est clairement Bourvil qui est la vedette. Est-ce qu'ils ont beaucoup de points communs, ces deux-là?
Ils ont énormément de points communs, à commencer par le fait que tout les sépare. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est parisien, enfin qui est né dans la banlieue parisienne, qui a toujours vécu à Paris, qui a un côté titi parisien, qui vient de la grande bourgeoisie.
Donc même on parle de Louis de Funès là.
De Louis de Funès. Ouais. L'autre est né au fin fond de la Normandie. Son beau-père était boulanger, mais ils ont quelque chose qui les rapproche vraiment, c'est qu'ils sont tous les deux de familles fracassées. Bourvil est orphelin de père, hein, son père est mort à la guerre. Il est d'un milieu dans lequel on n'imagine pas qu'on puisse devenir artiste. Mais pas du tout pour les mêmes raisons que Louis de Funès. Louis de Funès, on ne devient pas artiste parce qu'on est des bourgeois. Chez Bourvil, on devient pas artiste parce que pourquoi on irait à la capitale? Pourquoi on irait à Paris? Et c'est ça aussi qui les rapproche.
Et puis ces deux-là deviennent amis, ils sont généreux, ils aiment le métier d'artiste, ils ont l'humour en commun évidemment. Et puis Bourvil, particulièrement généreux avec Louis de Funès, on va raconter ça quand il tourne cette scène devenue légendaire dans le film de Claude Autant-Lara, La Traversée de Paris.
Tenez, un petit paquet de gauloises là pour le trajet. Il en manque que deux.
Et il lui donne des cigarettes maintenant.
Oh! Qu'est-ce qu'il y a encore?
Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus.
C'est sérieux?
Comment si c'est sérieux?
Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout!
Je vais 2000 francs, nom de Dieu, janvier! Janvier, 2000 francs!
Rien du tout!
Je lui casse la gueule!
Janvier, je veux 2000 francs, janvier, 45 rue Palimau!
Cette scène, quel bonheur de la réécouter, Bertrand Dical. Dans quel état est Louis de Funès avant de la jouer? Parce qu'elle a une importance particulière, cette scène.
Bah, il est quand même tétanisé de terreur, hein. Ouais. Il est quand même devant le plus grand. Alors, il connaît Bourvil, il connaît Jean Gabin, qu'il a déjà croisé, ouais. Mais il est quand même un petit acteur qui va avoir une scène dans laquelle il doit affronter. Il n'est pas faire valoir. Il est là aussi pour avoir une présence très 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 forte devant les caméras avec deux des monuments du cinéma français. Et puis en plus, il ne faut pas qu'il se rate parce que c'est sa seule scène dans le film. C'est-à-dire qu'après Gabin et Bourvil traversent Paris, on ne revoit plus Louis de Funès.
Et Bourvil aurait pu lui manger la vedette lors de ce tournage. Il lui laisse de la place quand même.
Il lui laisse de la place et en plus, il le soutient. Ouais. D'une certaine façon, il y a une personne dans les deux journées de tournage de cette scène. Il y a quelqu'un qui est un peu agacé par le jeu Louis de Funès, c'est Jean Gabin. Et si Jean Gabin finit par exploser ce truc, Jean Bier, ces hurlements historiques, c'est pas dans le scénario complètement.
Elle a envie de dire De Funès.
C'est il hurle c'est parce que De Funès monte en puissance de jeu et Gabin est obligé, parce que c'est sa manière à lui, de toute façon Gabin est comme ça, il est obligé de jouer plus fort que De Funès, donc il explose complètement.
Si tu t'amènes avec ta grosse bagnole.
Sa Rolls.
La Rolls.
C'est le Rolls.
Une Rolls, c'est en ma vie.
Ça y est, il est remonté.
Il m'a même dit, ça c'est une parenthèse.
Et non, mais il faut.
Et la voiture reste à Naples, et de Naples, il faut qu'elle aille jusqu'à Bordeaux pour transiter de là, aller jusqu'à. Jusqu'en Amérique.
Jusqu'à Miami.
Oui, jusqu'à Miami.
Je comprends rien, cette histoire. Ça va continuer.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, RTL.
Oh non, oh non.
La curiosité d'un vilain défaut.
C'est une catastrophe. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a?
Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
Interview extrait du Corneau, ce film extraordinaire de Gérard Oury. On vous raconte ce duo merveilleux du cinéma français, Louis de Funès et Bourvil, grâce à notre invité, le journaliste et habitué de la curiosité, Bertrand Dical. Il faut dire que c'est un trio aussi, parce qu'il y a le réalisateur. C'est lui qui a l'idée, Gérard Oury, de rassembler ces deux monstres sacrés dans ce film qui va devenir un des plus grands films français.
C'est son idée, mais il a besoin d'un complice. Et pour le Corneau, Oury a une star et un ami. La star, c'est Bourvil, l'ami, c'est De Funès. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les raisons qui les lient tous les deux, mais juste une chose, Gérard Oury, auparavant, était un réalisateur de films sérieux.
Ah oui.
De films qui avaient plutôt du succès, mais qui sont aujourd'hui absolument invisibles. Pardon, Gérard. Mais qui sont des films vraiment insupportables, de sérieux, de componction. Faut pas oublier que Gérard Oury a été comédien à la Comédie Française. Enfin, voilà.
Ça il déclame est dans le un peu et on sérieux.
Bon. C'est Louis
et
puis, de Funès qui lui donne envie.
Son ami ouais. Louis de Funès, qui un jour sur un tournage lui dit mais ton talent, c'est le comique. Regarde. Quand tu tournes une scène, avec moi par exemple, avec Louis de Funès, il s'amuse, il se marre, toute l'équipe s'amuse, tout le monde est content. Alors que quand il tourne ces scènes sérieuses, avec des sentiments profonds, ça emmerde tout le monde. Et il lui dit, ben, fais du film comique. Et Gérard Oury, non seulement décide de tourner Kazakh et de faire un film comique, qui sera le Corneau, mais en plus, il réussit à convaincre un producteur de lui accorder un budget gigantesque.
C'est une super production.
C'est une super production. À l'époque, dans le cinéma français, un film comique, c'est tourné avec quelques bouts de ficelle, à toute allure. Un film de Fernandel à l'époque, c'est 6 semaines de tournage, au maximum.
Et pourquoi les acteurs coûtent cher, c'est ça? Bourvil et Louis de Funès?
En général, dans le cinéma comique, on considère que c'est pas du cinéma sérieux, donc c'est vraiment avec des économies de bout de ficelle, on paye une star, et puis tout le reste est fait à l'économie. Et lui, Oury, il a envie de faire du vrai cinéma, avec un vrai scénario, des vrais décors, et tourner un film comique, en couleur, en prise de son directe, en décor naturel, en Italie, avec une équipe de dizaines, de centaines de techniciens qui va traverser toute l'Italie pour tout le cinéma français. C'est une folie, c'est n'importe quoi. Et il a besoin pour ça d'une immense star, Bourvil, et de quelqu'un pour le soutenir, qui sera De Funès.
Et alors ça démarre bien, mais au bout de 2 semaines de tournage, Gérard Oury réunit un peu toute l'équipe pour regarder là, les premiers rushs et... Bah Louis de Funès pique
catastrophe.
Une colère légendaire, qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est même pas une colère, c'est pire que De Funès, parce qu'il faut pas... On imagine que les colères de Funès, c'est les colères de Cruchot, il tape, il donne des coups de pied, il hurle, il fait des gamins. Non, pas du tout.
C'est froid.
De Funès en colère parle comme ça.
Ah oui.
Il parle tout doucement.
Il fait peur.
Très calmement. Ouais. Il murmure. Parfois, il se tait. Il peut se taire pendant une minute. Ce qui est insupportable pour quelqu'un qui est face à lui. Bref, De Funès est furieux parce qu'il a regardé les rushs et puis il a regardé le plan de tournage. Il a quasiment rien tourné. Sauf que dans le Cornio, il y a la voiture qui est conduite par Bourvil et puis il y a Saroyan qui est en train de le suivre en voiture. Mais sauf que la voiture, la verte comme il l'appelle, c'est une Jaguar que doit conduire Saroyan, avant même le début du tournage, a eu un accident. Donc la voiture est repartie en France pour être réparée et le temps que la voiture revienne, y a quasiment aucune scène avec De Funès. Mais De Funès qui se voyait à égalité avec Bourvil dans le tournage, soudain il se sent volé. Et là, il décide de faire la grève. Et alors, vous allez regarder le film, vous allez le regarder en DVD.
Oui.
C'est le moment où De Funès, quand ils arrivent à Rome, traverse le hall d'hôtel. Il traverse en hall d'hôtel. Il n'y a aucune expression sur son visage. Il fait la grève, ça dure une journée. Mais pour Oury, c'est un traumatisme.
Mais je m'approche maintenant de Louis de Funès et de Bourvil. Ils sont en train de parler ensemble. Est-ce que vous êtes en train de vous dire quelque chose de drôle?
Pas du tout, rien.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Dites, là, vous venez de terminer le film La Grande Vadrouille avec Jean Rouy. Quel souvenir vous allez emporter de la Bourgogne et plus particulièrement de ces petits coins de Meursault, de Beaune?
Bah, on va emporter. J'ai commandé du vin.
Mais pas.
C'est déjà des souvenirs.
Sur RTL.
J'avais rendez-vous le 15 novembre avec le commandant Jean-Pierre qui, en réalité, est le sergent Henri, de son vrai nom. Maréchal.
Non, il y a une petite erreur, Major Harbard. C'était pas un lundi.
Quoi?
C'était un dimanche.
Oui, c'est vrai. Oui.
Bourvil, Louis de Funès, Gérard Oury, c'est le trio magique du cinéma français du milieu des années 60. Notre invité, le journaliste Bertrand Dical, nous raconte ses succès records. Donc si Denis disait tout à l'heure, le Cornio, 11 740 000 spectateurs, la Grande Vadrouille sort seulement un an plus tard, donc on est 65-66, et là ça atteint les 17 267 607, c'est très précis, entrées. Bertrand, ça représente quelle proportion de la population française de l'époque, 17 millions de personnes?
Oh ben, si à l'époque doit y avoir 40 millions d'habitants, donc on est quasiment à la moitié de la population française. C'est absolument gigantesque. Alors il y a évidemment des gens qui vont le voir tous les jours, mais qui vont le voir plusieurs fois. Mais c'est un record absolu pour l'époque. Ça donne vraiment le vertige. Et alors juste qu'on réalise bien ce que ça fait, c'est que des films comme Le Docteur Jivago, comme Les Demoiselles de Rochefort, comme La Belle et la Bête, le dessin animé, sortent après et n'arrivent pas à être numéro 1.
C'est-à-dire que la Grande Vadrouille reste en tête. Quoi.
La Grande Vadrouille reste en tête pendant des semaines et semaines et des semaines et des mois, avec un nombre d'entrées et une passion des Français pour le cinéma qui se renouvelle. Parce qu'à l'époque, le cinéma français est en crise, il y a de moins en moins de gens dans les salles et on considère que La Grande Vadrouille, à elle toute seule, c'est un redémarrage de l'industrie cinématographique française.
Ce qu'on ne sait pas forcément, Bertrand Dical, c'est que c'est un scénario, La Grande Vadrouille, écrit par deux femmes à l'origine.
Pour deux rôles de femmes.
Ça devait être Lily et Lulu. Ça devait être deux duettistes. C'était au temps où Gérard Oury se demandait justement s'il n'allait pas se mettre à faire des films comiques. Il avait écrit ça avec Jean-Charles Taquella, qui sera plus tard le réalisateur de Cousin Cousine, par exemple. Et ça raconte l'histoire de deux sœurs jumelles. L'une est prostituée, l'autre est bonne sœur. Et le même jour, elles se retrouvent à devoir emporter, accompagner des aviateurs anglais en zone libre. Et l'une va faire le circuit des lupanards et l'autre va faire le circuit des monastères. Donc voilà. Mais ce scénario va être réadapté pour Bourvil et Louis de Funès, avec cette idée toujours géniale de l'opposition, un bourgeois sûr de son fait, autoritaire, et un brave gars du peuple. Mmh. Et à la fin du film, évidemment, tout finit bien. Je vous spoil l'histoire. Évidemment, tout finit bien. Mais surtout, le bourgeois arrogant est devenu humain. Et c'est la recette de tous les grands films de Louis de Funès que Houry porte au pinacle, parce qu'il a ces deux acteurs qui sont absolument complémentaires.
Oui, ça coûterait bien une bonne scène, non, Thomas, on en a encore.
Ah oui, on va
en
écouter une, notamment cette scène inoubliable de l'échange des chaussures.
Évidemment, ce n'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là.
Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte.
Quoi ?
Que vous me prêtiez vos souliers.
Bah, vous chaussez du combien ?
J'ai du comme vous.
Ah bon ?
Ah, ben là, ça va mieux.
Attendez-moi quand même.
Mais venez, allons.
Il faut que je m'y habitue.
Allons, venez, mon temps.
Il faut que je m'y habitue. Il doit chausser 5 pointures de moins.
Chose du
de
comme
plus,
vous.
De plus, pardon. Chose du j'adore. Comme vous, c'est tellement drôle. Elle est tournée quand, cette scène, Bertrand Ducal ?
Alors, elle est tournée au début du film.
Au tout début,
c'est le début du tournage. Ouais. Et c'est le début des embêtements pour Gérard Houry.
Ah.
Parce que Gérard Houry se rend compte de quelque chose dont il ne s'était pas rendu compte dans le Corneau. Parce que si on réfléchit dans le Corneau, il y a De Funès et Bourvil, ouais. Mais ils sont très rarement ensemble. Ils tournent très peu de scènes ensemble. Ouais. La majorité du film, ils sont séparés. C'est bien justement le scénario.
Ouais.
Voilà. Or là, ils sont tout le temps ensemble pendant tout le film. Mmh. Et il y avait quelque chose qu'avait remarqué Houry sur le Corneau, mais que là, il remarque vraiment dès les premiers plans, c'est qu'ils n'ont pas du tout le même rythme de tournage. De Funès, lui, il est extrêmement traqueur, il met très longtemps à se mettre en place, il improvise, il rajoute des variantes, il n'arrive jamais à faire deux fois exactement la même chose.
C'est un diesel.
C'est vraiment un diesel. Ouais. C'est une Ferrari, mais diesel. Ouais. Donc, il lui faut 10-20 prises pour commencer à être vraiment bon. Alors que Bourvil, à la troisième prise, il commence à être mauvais. C'est-à-dire que non seulement à la première prise, il est souvent très bon, à la deuxième, il est excellent, à la troisième, le cas échéant, il est génial, mais il peut être juste bon à la troisième, et à la quatrième, de toute façon, il sera mauvais.
Gros casse-tête quoi. De montage, quoi. Et y a un problème.
Non, même de tournage, parce qu'il faut que
pendant le tournage,
oui, mais après, il faut monter les séquences aussi. Et puis, il y a quelque chose sur l'humeur aussi. Il y en a un qui est souvent de bonne humeur, et l'autre qui fait souvent la gueule et qu'il faut un peu remonter.
Alors, Bourvil ressemble vraiment à son personnage au cinéma. C'est un brave gars, c'est un type gentil, c'est un type complètement adorable. En revanche, De Funès, il est, lui, pour le coup, très saturnien.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il est taciturne, il est pas expansif, il se réveille régulièrement de mauvais poil. Et Bourvil a trouvé quelque chose que ne réussira jamais personne, c'est faire rire De Funès systématiquement.
Qu'est-ce qu'il lui fait ?
Il lui chante les abeilles.
Comment
les abeilles. Voilà.
C'est énervant.
Oui, mais c'est une chanson de Bourvil.
Et oui,
c'est
ça
une formidable chanson de Bourvil qui lui chante pour le dérider systématiquement et ça devient un running gag pendant tout le tournage.
Et bien voilà, on va terminer avec les abeilles justement.
Les abeilles.
C'est trop trop bon. Merci beaucoup Bertrand Ducal.
Merci
à vous.
Grand bonheur, on peut prolonger l'expérience avec ce Louis de Funès de A à Z. Quel beau boulot vous avez fait. Chapeau, c'est publié chez Grune. Et puis, il y a l'exposition de Funès à la Cinémathèque de Paris. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant puisque ça démarre le 15 juillet.
Les abeilles.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.